Radio Okapi. Le journal de Jocelyn Moussa Oponde.
Le bilan des nouvelles attaques des ADF à Benimbao s'alourdit. Il passe de 3 à 37 personnes tuées en l'espace de 3 jours. La société civile plaide pour des opérations conjointes FRDC-UPDF dans la région. Au regard du nombre croissant des cas de monkeypox, la RDC risque d'être déclarée pays à risque de santé publique de portée internationale. C'est Jean-Jacques Mbungani, ancien ministre de la Santé, qui tire la sonnette d'alarme. Il appelle le gouvernement souminois à s'impliquer dans les plus brefs délais pour renverser la tendance. L'invité de cette édition, c'est Paul Pakou, inspecteur principal de la province éducationnelle Tanganyika 2. Il dressera le bilan de l'année scolaire 2023-2024 dans son secteur. Bonsoir à tous. Ouvrons cette édition vespérale par ce nouveau bilan des récentes attaques des rebelles ADF à Babila Bakayiko, localité du secteur de Benimbao, dans le territoire de Beni au Nord-Kivu. Le bilan est passé de 3 à 37 personnes tuées en l'espace de 3 jours. La société civile locale indique que des dégâts matériels importants ont été également enregistrés. Elle sollicite les opérations militaires conjointes FRDC-UPDF dans la région. André Kitenge pour les détails.
Ces attaques à répétition des rebelles des ADF ont été perpétrées dans plusieurs villages de la localité de Babila Bakayiko, dans le groupement de Batangimbao depuis 3 jours. Selon le président de la société civile locale, plusieurs alertes sur la présence de ces rebelles des ADF dans la région ont été faites, mais qui n'ont pas été prises en compte par les autorités militaires. En l'espace de 3 jours, 37 personnes ont été tuées, comme l'affirme Kinos Katuo, président de la société civile locale.
Les bilans des attaques des ADF NAL du mardi 16 au jeudi 18 juillet 2024 est passé de 3 personnes à 37 personnes tuées, 9 maisons incendiées, 7 motos incendiées et plusieurs personnes portées disparues. Aux autorités militaires, nous sollicitons les opérations conjointes FRDC-UPDF dans le secteur de Benimbao, particulièrement dans le groupement de Batangimbao.
Pour cet acteur de la société civile, il s'agit là d'un bilan provisoire car plusieurs autres personnes ont été enlevées par les assaillants et ne répondent pas aux appels jusqu'à ce samedi. Matin. L'armée n'a pas encore donné sa version des faits. Néanmoins, les soldats des FRDC déployés dans la région se sont lancés à la poursuite de ces rebelles qui se sont dirigés vers l'ouest de la route nationale numéro 4, indique la société civile locale. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
En Ituri, environ 200 enfants orphelins victimes des exactions de groupes armés vivent dans des conditions déplorables dans les territoires de Mambasa. La plupart de ces mineurs sont répertoriés dans les rues et marchés de Mambasa centre. Selon les résultats d'enquête effectués par la coordination territoriale des comités des personnes déplacées des Mambasa, publié vendredi, ces enfants non accompagnés, dont l'âge varie entre 5 et 15 ans, sont des fois utilisés pour des petits travaux dans les restaurants et les transports de marchandises dans les marchés, en violation de droits de l'enfant. À cause de l'absence d'un orphelinat à Mambasa, cette structure appelle le gouvernement et les organisations non gouvernementales à intervenir pour encadrer ces enfants qui, selon elle, constituent un danger permanent pour la société. Justin Apekapo, son coordonnateur, est au micro de Martial Kizabemungu.
Ces enfants sont des déplacés qui sont ici à Mambasa, à Satre. Leur condition de vie est tellement chaotique. Nous alertons aux autorités, mais aussi à toute personne animée de bonne volonté, de venir en appui vers ces enfants parce que leur condition de vie est tellement chaotique. Vu que ici à Mambasa nous n'avons aucun orphelinat et l'encadrement de ces enfants nous échappe, nous étant que la coordination des déplacés, c'est pourquoi nous alertons à tout d'assister ces enfants, voire même l'encadrement de ces enfants. D'ailleurs, nous plaidons de créer un orphelinat ici à Mambasa Satre, parce que sinon, si la situation va continuer ainsi, ces enfants risquent d'être un danger pour la communauté.
Le président Félix-Antoine Tshisekedi engage le gouvernement à prendre les mesures qui s'imposent pour éradiquer la criminalité dans les villes du pays. Il l'a dit hier, vendredi, lors du 6e conseil de ministres du gouvernement souminois à la cité de l'Union africaine à Kinshasa. Selon le porte-parole du gouvernement, de nombreux cas de criminalité sont rapportés à travers les villes et localités, perturbant ainsi la quiétude des citoyens. Des biens des habitants sont confisqués et des propriétaires parfois tués ou blessés. On écoute un extrait du compte-rendu du Conseil des ministres lu par le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, extrait proposé par Alain Hirung.
Le président de la République est préoccupé par la recrudescence de la criminalité dans plusieurs villes de notre pays, mettant ainsi en péril les vies humaines et perturbant la vie sociale et économique de la population. Parmi les villes les plus touchées, il y a principalement la ville-province de Kinshasa et ses axes environnants, Lubumbashi, Kolwezi, Bunia, Goma, Beni, Butembo et Kisangani. Il se développe dans ces villes un banditisme urbain, avec le phénomène Kuluna allant jusqu'à l'affrontement des gangs dans les communes et quartiers résidentiels, des cas de plus en plus élevés de vols à main armée, d'extorsion, de braquage de cambistes, d'enlèvements ou d'assassinats ciblés, sans oublier plusieurs actes de délinquance juvénile. Le président de la République a engagé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, ainsi que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, sous la supervision de la Première ministre, à prendre toutes les mesures qui s'imposent pour éradiquer ces phénomènes qui insécurisent les personnes et leurs biens.
Parlons santé à présent. La situation de la variole des singes ou monkeypox est préoccupante en RDC avec plus de 11 164 cas et 447 décès depuis le début de l'année 2024. C'est l'ancien ministre de la Santé qui tire la sonnette d'alarme dans une vidéo publiée sur son compte X. Docteur Jean-Jacques Mbungani dit craindre qu'à cause de cette flambée de Mpox, que la RDC soit déclarée pays à risque de santé publique de portée internationale. C'est là à cause de la proximité du pays avec plusieurs autres pays, notamment le Rwanda et le Burundi, proches des provinces congolaises touchées par la maladie. Il appelle urgemment le gouvernement souminois à s'impliquer dans les plus brefs délais pour sauver des vies. On écoute Dr Jean-Jacques Mbungani dans cet extrait proposé par Alain Hirung.
Nous craignons, et ça je tire la sonnette d'alarme, que la maladie soit déclaré comme problème de santé publique à portée internationale. Si elle est déclarée comme problème de santé publique à portée internationale, donc il y aura un regard des organisations internationales plus accru. Parce que nous sommes à la frontière avec le Rwanda et le Burundi. Parce qu'il y a beaucoup de cas signalés au site Kivu. Le ministère de la Santé devrait suivre ça de près pour pouvoir protéger nos populations. La riposte est importante. Là où vient le rôle de tous les acteurs dans le mécanisme pour barrer la route à la circulation du Mpox. Il faut faire un effort pour améliorer la coordination et la mobilisation des ressources afin d'accompagner les provinces par les experts. Mais nous devons aussi faire un effort. Il faut une formation des experts pour que, au niveau provincial, la prise en charge soit efficiente.
En économie, le ministre de l'Industrie et des PME a visité ce samedi la société Jokol Anjili dans l'est de la ville de Kinshasa. Lui, Kabamba Watum, voulait palper du doigt les réalisations de cette jeune unité de production dans la mise en valeur des produits agricoles, notamment leur transformation en produits finis. On écoute le ministre Lui Watum au micro d'Étienne Lissoumbou.
Les obstacles sont nombreux. Il y a d'abord le manque d'énergie. La deuxième chose, c'est le manque d'infrastructures appropriées. Il y a une troisième chose, et cela m'a énormément... ça a été un de mes plus grands combats. Et le climat des affaires pose problème chez nous. La fiscalité, la parafiscalité qui s'applique aux entrepreneurs, aux affaires, aux industriels, au point où on passe à des saisies de comptes parfois, c'est un terrorisme fiscal qui se fait. Tout ça n'est pas de nature à favoriser les affaires. Voilà les quelques obstacles. Je vais quand même ajouter un dernier parce que dans la vie, c'est pas toujours la faute des autres. On regarde aussi sa part de responsabilité. Quand je regarde beaucoup de nos entrepreneurs, ils ont la volonté de devenir des entrepreneurs, des industriels et autres, mais on ne le dit pas souvent, la culture de l'entrepreneuriat, qui est pourtant critique, manque souvent. L'éducation financière, économique dont ils ont besoin, manque souvent. Et c'est comme ça que vous allez entendre tous les entrepreneurs vous dire le plus grand problème, c'est le manque de capitaux, l'accès aux capitaux. Mais je m'excuse de vous contredire. Le plus important, ce n'est pas l'accès aux capitaux. Oui, l'accès aux capitaux est important, mais le plus important, c'est cette culture-là où vous comprenez que vous allez d'abord compter sur vos propres forces.
La ville de Kalemie sera privée d'énergie électrique à partir de lundi 22 juillet, cela durant 10 jours, et pour cause, des travaux seront effectués à la centrale de Bendera pour la réparation d'une pièce de la turbine. Mais quelles sont les dispositions prises par la SNEL pour alimenter les points stratégiques de la ville de Kalemie pendant cette période, Paul Amunanga?
Au cours de la conférence de presse de ce vendredi à Kalemie, le chef des divisions production et transport Bendera annonce que la SNEL a deux groupes électrogènes dans la ville de Kalemie. Et en cas d'interruption de l'énergie électrique, la société a l'habitude de démarrer les deux groupes électrogènes pour alimenter les points stratégiques de la ville comme les hôpitaux, les morgues, le gouvernorat, la régie des eaux. Marcel Sagalikaite souligne malheureusement que ces groupes électrogènes sont en panne. Ainsi, il demande aux partenaires de la SNEL de prendre des dispositions pour faire face à ces problèmes.
Il y a des notes qu'on a écrites et envoyées à tous nos clients potentiels. Donc, l'hôpital général qui a une morgue doit prendre les dispositions d'avoir un groupe électrogène pour pouvoir alimenter la morgue. Pendant ce temps, la régie des eaux doit prendre aussi ses dispositions pendant ces 10 jours pour continuer à fournir l'eau à la population.
À la régie des eaux Kalemie, les responsables annoncent que le groupe électrogène dont dispose la société est aussi en panne. Pour l'instant, aucune solution de rechange n'est encore envisageable pour alimenter la population en eau potable. Toutefois, les responsables disent avoir déjà pris langue avec les autorités de la province à ce sujet. Kalemie, Paul Munanga, Radio Okapi.
Au Kasaï oriental, plus de 800 ménages habitant le quartier de la Plaine, dont la commune de Bipemba, sont sommés de déguerpir incessamment pour faciliter la poursuite des travaux de construction de l'aéroport international de Mbujimayi. Dans un communiqué publié le 17 juillet dernier, le maire de la ville annonce pour bientôt les démolitions des maisons construites sur l'emprise de l'aéroport en expropriation pour cause d'utilité publique. Des explications avec Esther Ndalafina.
Dans ce communiqué, l'autorité urbaine indique que, conformément au rapport de la commission, les travaux de modernisation de l'aéroport de Bipemba débutés depuis 2022 ont subi un retard considérable dans leur exécution suite à la lenteur préjudiciable de la libération des parcelles concernées par l'expropriation. Pour le maire, la non-libération rapide de ces parcelles amène l'autorité à recourir à des mesures de démolition forcée des immeubles compris dans le périmètre concernés par l'expropriation, raison pour laquelle le maire de la ville demande aux propriétaires des maisons de procéder volontairement à la démolition pour récupérer les matériaux de construction. Signalons que les 800 familles ont toujours contesté cette expropriation, justifiant leur position par le non-respect de la valeur marchande de leur parcelle. Pour harmoniser cette situation, le gouvernement provincial leur a remis au mois d'avril dernier des jetons pour leur attribuer des parcelles dans la périphérie de la ville. Toutes ces mesures semblent ne pas produire les résultats attendus par les autorités provinciales, l'entreprise chargée de moderniser l'aéroport et la régie des voies aériennes. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Le commandant du service national a remis hier vendredi un lot de 500 bancs à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC. Le général-major Jean-Pierre Kasongo Kabwik a dans son adresse à cette occasion rendu hommage au président de la République qui a transformé des ex-délinquants d'Ikuluna en citoyens consciencieux et responsables. Cette distribution des bancs à l'IFASIC intervient quelques mois après celle effectuée à l'université de Kinshasa. On écoute le général-major Jean-Pierre Kasongo Kabwik dans ses propos recueillis par Alain Irung.
Les bancs qui sont distribués aujourd'hui ont été fabriqués par des ex-colonnes, des vagabonds, qui sont devenus bâtisseurs de la nation. Ces jeunes, qui autrefois étaient considérés comme de bandes, des malfaiteurs, des criminels, etc., etc., sont aujourd'hui des citoyens consciencieux, patriotes, nationalistes, formés à l'idéal du service national. Depuis 2020, c'est plus de 4000 jeunes qui sont passés par le Haut Forum du Service National pour y être modélés. En dehors de l'éducation civique et patriotique qu'ils ont reçue, ces jeunes ont été initiés à la production agricole et aux différents métiers. Parmi eux, vous trouverez des maçons, des menuisiers, des mécaniciens automobiles, des mécaniciens agricoles, des ajusteurs, des conducteurs de train et d'autres engins agricoles.
Actualité internationale.
Le Nigeria a annoncé poursuivre la plateforme américaine Meta, maison mère de Facebook et WhatsApp, pour le non-respect de la protection des données et sur les lois sur la protection des consommateurs et de la vie privée. Le Nigeria réclame notamment 220 millions de dollars américains de pénalités aux géants américains.
L'invité.
Notre invité est Paul Pakou, inspecteur principal de la province éducationnelle Tanganyika 2 qui regroupe les territoires de Kabalo, Manono et Kongolo. Dans cet entretien avec Paul Amunanga, Paul Pakou dresse le bilan de l'année scolaire 2023-2024 dans son secteur.
Monsieur l'inspecteur principal provincial Paul Pakou, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste.
Comment s'est déroulée l'année scolaire 2023-2024 dans la province éducationnelle Tanganyika 2 qui regroupe les territoires de Kabalo, Kongolo et Manono?
L'année scolaire 2023-2024 s'est déroulée dans le respect du calendrier. Ici, je dois dire que les 222 jours de classe ont été atteints dans la plupart de nos écoles. Grâce, n'est-ce pas, au savoir-faire de la police pédagogique à ma disposition. Et quand je parle de la police pédagogique, je sous-entends la présence des inspecteurs qui sont disséminés ici et là. Et j'en ai ici, dans les Tanganyika 2, 257 composés des hommes et des femmes capables de faire respecter les instructions.
Et quels sont les points positifs que vous avez pu remarquer au cours de cette année scolaire?
Les points positifs qui ont marqué l'année scolaire qui vient de s'achever sont innombrables. Mais pour l'économie du temps et d'énergie, je vais épingler certains d'entre eux. En commençant par la gratuité de l'enseignement primaire dans le secteur public, qui n'était pas un slogan creux. Beaucoup d'enfants ont renoué avec l'école et le nombre de filles a augmenté sensiblement et avec un taux d'accroissement de 9,4 qui n'avait jamais été atteint avant. Aussi, les écoles commençaient à s'équiper petit à petit en bancs pupitres en suivant, n'est-ce pas, les mots d'ordre du ministère. Voilà un peu, d'une manière ramassée, les quelques points positifs qui m'ont marqué.
Avez-vous enregistré une déperdition scolaire dans votre secteur? Si tel est le cas, cela est dû à quoi?
Oui, la déperdition est importante dans la province de Tanganyika 2. Je dirais là où même c'est gratuit, c'est-à-dire au primaire, hein, les épreuves certificatives étaient gratuites au niveau du cycle primaire, mais il y a eu 5% de déperdition, vous voyez? Ça nous fait très mal au cœur. Hein. Au niveau du TENASOSP, plus de 3000 candidats qui ont été inscrits n'ont pas répondu présent à la passation. Et ce n'est pas tout. Au cycle long, à l'examen d'État, on a déploré plus de 1200 candidats inscrits, mais qui étaient absents. Mais cela a aidé à quoi? Beaucoup de parents n'ont pas encore compris qu'ils doivent envoyer les leurs à l'école. Et les enfants s'adonnent à la pêche, ils s'adonnent au mariage précoce, ils sont dans les travaux champêtres, et il y en a, comme à Manono, qui sont dans l'exploitation artisanale des minerais. Voilà un peu les quelques causes que j'ai pu évoquer à ce sujet.
Y a-t-il eu des difficultés au cours de cette année auxquelles vous avez pu faire face?
Les difficultés auxquelles nous avons eu à faire face se rapportent à l'inaccessibilité de certaines écoles à cause des mauvais états de route d'une manière générale. Le manque de route est un handicap pour mes inspecteurs qui sont appelés à sillonner les écoles pour qu'ils se rendent compte de la qualité de l'enseignement. Et ils se plaignent par le fait que leur plan trimestriel d'activité souffre beaucoup. Ils prévoient de mener des activités pendant 3 jours et faute de route, ils passent une semaine. C'est comme ça qu'ils connaissent un retard dans les reproductions. À cela, il faut ajouter l'insécurité. Mes inspecteurs sont souvent victimes d'agressions quand ils parcourent des zones où la sécurité n'est pas de mise.
Est-ce que les inondations ont eu des conséquences sur l'année scolaire qui vient de s'achever?
Les inondations de mois de mars et avril dernier ont fait des dégâts énormes, si bien que certaines écoles ont été délocalisées et cela a servi d'alibi à certains parents pour retirer leurs enfants, surtout ceux de l'école primaire. Pour eux, cela ne pouvait pas parcourir 500-600 mètres pour qu'ils continuent avec les apprentissages. Et pourtant, nous n'étions qu'à quelques 2-3 mois de la fin de l'année. Hein, ils ont préféré retirer les leurs en dépit de nos nombreuses sensibilisations.
Monsieur Paul Pakou, je vous remercie.
Merci à vous également, Paulin Mounanga, pour cette interview. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Ce journal coordonné par Alain Irung prend fin. Il a été mis en onde par Pierre Diassinois et présenté par Jocelyne Moussaou. Bonne soirée chez vous.